Je passe au deuxième élément. Jésus dit, il lit de pesants fardeaux sans les remuer du doigt. On a un exemple avec Judas qui vient voir les prêtres en disant, voilà, je me rends compte que j'ai fait une bêtise, je vous rends les 30 pièces, relâchez Jésus. Et eux, ils refusent. Et au départ, j'imagine, l'idée de Judas, c'était d'être absous par les prêtres. Voilà, il n'y avait pas le sacrement de réconciliation, mais il y avait l'équivalent. Et ils refusent. Donc, ils bloquent le pardon que le Seigneur voulait donner. C'est une tentation. Donc, le refus de pardonner. Finalement, à chaque fois qu'on refuse de pardonner à quelqu'un, on renie notre rôle de prêtre, tous. Dans ce refus de pardon, il peut y avoir aussi d'appliquer des règles par une peur d'être hypothétiquement réprimandé. Je tiens un guichet de poste et je le ferme à l'heure pile, ou alors je choisis de faire passer une dernière dame qui avait vraiment l'air d'avoir besoin d'envoyer son colis. Est-ce que je me cache derrière une règle parce que je me dis « Oh là là, je vais mal faire mon travail ?» Parce que ma conscience peut-être est un peu fragile et j'ai du mal à reconnaître que la loi mérite d'être adaptée. Ah donc, en positif, le rôle du prêtre, c'est de pardonner. Puisque tout le monde n'a pas la chance d'aller voir un prêtre pour recevoir le pardon. Et le pardon que nous donnons, en écoutant les personnes, en pardonnant nous-mêmes aux gens qui nous entourent, fait descendre également le pardon du Seigneur sur les personnes. Comme ces quatre personnes qui viennent faire un trou dans la toiture et apportent le brancard à Jésus avec le paralytique. Jésus ne donne pas la parole au paralytique. Il lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Moi, ça m'a bluffé, en fait, de réaliser ça. Qu'il n'y avait pas de dialogue « Raconte-moi, quelle bêtise as-tu faite ?» Non, et devant tout le monde, en plus. Hein, « Tes péchés sont pardonnés ». Donc, on peut imaginer peut-être les quatre personnes. Quatre, ça désigne les quatre points cardinaux, donc toutes les composantes de l'humanité. Et que Dieu se sert de toute personne dans l'humanité pour faire descendre son pardon. Et nous qui recevons normalement régulièrement le pardon du Seigneur, on a peut-être une capacité plus grande que les autres prêtres que le reste de l'humanité à faire descendre avec force le pardon du Seigneur, parce que les gens qui nous dérangent, qui nous font du mal, etc., on va demander la force au Seigneur dans notre prière d'arriver à leur pardonner et de laver dans notre vie ce qui bloque notre puissance de pardon, quoi. Donc le rôle du pardon, les expiations, les purifications, tous les textes sur la lèpre, hein, où les gens vont venir nous voir pour nous demander de discerner sur quelque chose dans leur vie. Ils vont se rendre compte que lorsqu'ils nous parlent, il y a quelque chose de grand, qu'on est dépositaire de quelque chose de plus grand que nous, et ils nous parlent aussi parce qu'ils s'attendent à entendre quelque chose, une parole réconfortante, qu'il y a un lien avec le pardon. Et oser remuer, le prêtre ose faire corps avec le péché d'autrui, c'est-à-dire « Seigneur, nous avons péché ». Jésus a bien dit « Pardonne-leur », mais en même temps, il était sur la croix et il s'est fait malédiction pour nous. Et dans les prières d'expiation qu'on peut lire dans l'Ancien Testament notamment, c'est « Seigneur, nous avons péché ». Le prêtre tient un rôle où il fait comme s'il avait péché autant que le reste du peuple. Et donc, c'est pas complètement à côté de la plaque de dire au Seigneur, pour notre famille, nous avons péché, au lieu de dire, Seigneur, pardon, parce que dans ma famille, ils ont péché. Il vaut mieux dire, nous avons péché. On fait partie de la même famille, de la même humanité. C'est plus juste et c'est conforme à la manière que Dieu a choisie pour racheter et faire descendre son pardon. C'est ça, remuer du doigt, en fait. Refuser de remuer du doigt, ça fait référence, je pense, au refus de faire corps avec le péché d'autrui. Et puis, toujours donc dans la puissance de pardon, croire que le pardon mène au miracle. Donc là, je suis dans le 4A, page 9, Luc 5, 21-26. Toujours l'homme paralysé sur la civière. On a plusieurs passages comme ça où Jésus dit « Tes péchés sont pardonnés » et « Suis un miracle ». Il faut vraiment croire que le Seigneur fait des miracles en plus de faire descendre le pardon. Le pardon, c'est l'énorme rocher, l'énorme poutre dans la vie des gens, on va dire ça comme ça, dans la nôtre. Et le pardon et le miracle, c'est la paille presque, c'est la petite cerise sur le gâteau, parce que le Seigneur accorde que grâce à cette foi, grâce au fait de faire corps avec le péché d'autrui, de s'approprier le péché d'autrui, de pleurer avec ceux qui pleurent, et bien des miracles vont advenir dans la vie des personnes où elles vont s'entendre. elles vont guérir de certaines choses, elles vont réussir à renouer avec des gens de leur famille, à sortir de leur morosité, de névrose, etc. Bon. Alors, comment se garder de bloquer le pardon du Seigneur? Donc Jésus dit que il faut croire que tout ce que nous aurons lié sur la terre le sera aussi dans les cieux. Et aussi, il dit que les pardons non donnés nous seront comptés, comme dans la parabole du prêteur qui ne fait pas miséricorde. Voilà. Quand on ne fait pas miséricorde, c'est comme si on refusait de délier quelqu'un de la petite somme qu'il nous doit, parce que ça passe par nous. Le Seigneur l'a mis en face de nous, cette personne qui nous a confié ses malheurs. Et donc, le Seigneur aura plus de mal à nous pardonner parce qu'on a bloqué son pardon, quoi. Voilà. Donc, faut croire qu'on a une responsabilité et le Seigneur nous pardonne aussi parce qu'on pardonne beaucoup, quoi. Le troisième rôle. Jésus dit, toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Donc, ça, selon moi, il s'agit de monopoliser et détourner la place d'enseignant. Donc là, on n'est pas seulement sur le fait de garder la loi. On est plus sur le fait d'expliquer et d'être l'unique personne en mesure d'apprendre quelque chose aux autres. Et utiliser à l'encontre de ceux qui le font remarquer la dérision. Donc on voit dans le 2D, page 4, Luc 16, 1 à 15, il y a Jésus qui enseigne avec la parabole de l'économe trompeur et il conclut en disant « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Et quand ils entendaient tout cela, les pharisiens, eux qui aimaient l'argent, tournaient Jésus en dérision. Et on retrouve ça, vous vous faites passer pour juste aux yeux des gens, etc. La dérision est souvent utilisée par des enseignants qui se trouvent coincés parce qu'on leur fait une remarque juste. Il tourne Jésus en dérision, il n'y a que ça, de se moquer pour détourner le sujet. C'est une technique de rhétorique, en fait. Hein. Et on a aussi le texte de Jean 7. Vous savez, les soldats reviennent, toujours ce texte-là, où les pharisiens disent « Vous êtes devenus, vous aussi, ses disciples. » Et puis après, il y a Gamaliel qui dit « Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord entendre quelqu'un avant de le condamner ? Mais toi aussi, voilà, c'est la dérision, le soupçon de malveillance, en fait, des moyens frauduleux qui ne sont pas des moyens bienséants, en fait, des moyens civilisés. On utilise la force, on utilise la suspicion, on utilise la force du groupe aussi, en disant « Connais-tu chez les pharisiens quelqu'un qui croit en Jésus ?» quoi, comme si c'était la norme, alors que bah non, c'est juste une parole dite pour impressionner et personne n'ose l'ouvrir. Et puis après, on a tous les pharisiens qui se cachent parce qu'ils savent que le Sanhédrin est contre Jésus, quoi. Voilà. C'est un rugissement, quoi. Voilà, l'effet de groupe, le mépris, le soupçon de malveillance. Bon. Alors, les exemples de monopoliser la place d'enseignant, pour nous, ça va être refuser d'apprendre quelque chose de la part d'un élève ou d'un enfant. Une des grandes délicatesses que peut nous faire le Seigneur, si on est enseignant, par exemple, c'est qu'un élève nous dise « Attention, là, je crois que c'est pas ça. » Et si on l'intègre, ça évitera de dire une bêtise les fois d'après. Ou un enfant. Ou rester fermé à toute possibilité d'expression d'un autre avis que le nôtre. Voilà, parfois c'est un peu difficile quand on est persuadé de quelque chose. Je pense aux gens aussi qui sont peut-être blessés par des personnalités politiques. Ça peut être difficile parfois d'entendre quelqu'un qui va défendre le parti adverse sur certains points. Parce qu'il est vrai que les hommes politiques, en général, ils donnent leur vie à la politique, donc on peut toujours trouver des choses, et ça peut être difficile d'être enseigné par quelqu'un du parti adverse, quoi. Et on voit que beaucoup de crispations, aujourd'hui, sont, en France notamment, du fait de monopoliser la place d'enseignant et de se placer au centre de tout, quoi. Donc la vocation d'un prêtre, c'est d'enseigner, de manière positive, hein, comme le Christ. Et le Christ, en réalité, faisait tout en prenant la dernière place, voilà. Donc tout ce qui appartient à l'enseignant, son titre, sa gloire, son diplôme, ça peut être utilisé comme argent trompeur, comme Paul qui a revendiqué son titre de citoyen romain, parce que c'était un moyen qu'il utilisait pour une situation donnée, mais c'était pas quelque chose qu'il utilisait tous les jours pour se faire valoir, quoi. Ça restait quelque chose, tout compte fait, qui pouvait servir un moment ou l'autre pour la gloire de Dieu. Voilà, il l'a utilisé comme tel. Et moi, je trouve ça beau de voir qu'on... La vie chrétienne fait qu'on n'a rien à rejeter a priori, que ce soit d'être riche, d'avoir tel ou tel don, on n'a pas à le rejeter, on a juste à le présenter au Seigneur. Alors, les tuyaux que donne le Seigneur, pensez que nous n'avons qu'un seul enseignant, Père et Maître, le Seigneur. C'est d'abord le Seigneur qui fait que nous pouvons enseigner et qui fait que nous pouvons être enseignés par les gens que nous enseignons. Donc, imiter Jésus lorsqu'il enseigne, qu'il pardonne, qu'il se fait serviteur, fuir le prestige abominable aux yeux de Dieu, et dans les discussions, se concentrer sur la recherche de la vérité et non sur notre ego. On voit que souvent, dans les discussions avec les pharisiens, quand Jésus énonce des vérités générales, il y a une division qui se fait. Les interlocuteurs de Jésus qui disent « Hosanna, béni soit le fils de David » et les pharisiens qui s'énervent en fait. Parce que il y a d'un côté les gens qui vont essayer de voir quelle vérité Jésus est en train d'enseigner et qui vont s'émerveiller devant cette vérité, et ça va leur réchauffer le cœur. Et il y a ceux qui vont comparer ce qui est apporté par cette vérité avec leur propre cœur et qui vont dire « Il est en train de me juger, c'est moi l'enseignant, pas lui. » Et ils vont s'endurcir en fait. Et parfois, nos propres endurcissements sont des points d'obscurité qui révèlent qu'on monopolise cette place d'enseignant, quoi. On n'aime pas être enseigné et on ferait mieux de se concentrer sur la vérité professée par la personne qui est en train de nous parler et pas sur « il est en train de me condamner, quoi. Il est en train de me dire mes quatre vérités, quoi. » C'est pas l'objet de Jésus, en tout cas.